Parlons Psycho, 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho. Bonsoir à tous, Axel Jacquemont pour Parlons Psycho. Nous allons parler ce soir de l'adolescence. Parents, comment traverser cette étape conflictuelle en restant bienveillant et en laissant votre enfant s'émanciper? L'adolescence, une étape cruciale dans la vie de chacun, véritable transition, cette mue biologique et mentale offre son lot de découvertes mais aussi d'angoisses. Au cours de ces presque 9 années en moyenne, l'enfant doit apprendre principalement la séparation et l'individuation, qui sont autant de confrontations à des errances psychiques parfois difficiles à contenir. Parallèlement, l'adolescence est une période propice à la vitalité et à la créativité. L'adolescent rêveur a un très fort potentiel. Mais cette construction passe inéluctablement par de grands questionnements, de l'incompréhension, voire de la rébellion face au monde des adultes. Et les parents se sentent bien souvent démunis face à leur enfant, oscillant entre la fermeté pour garder un contrôle sur l'enfant et l'envie de le laisser se débrouiller pour grandir. Alors, quelles sont les clés pour réussir l'adolescence de son enfant? Pour apporter quelques réponses, Sonia Rougerie est avec nous ce soir. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de la Maison des adolescents à Villefranche et ancienne infirmière à l'hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans un service de pédopsychiatrie. Mmh. Alors Sonia, vous allez nous aiguiller, nous éclairer un petit peu sur cette période un petit peu difficile. Déjà, en tant que directrice de la Maison des adolescents, vous pouvez un petit peu nous dire de quoi il s'agit, cette Maison des adolescents, dans quelle mesure vous accueillez des jeunes et leurs parents, ou séparément, à quel rythme, avec quelle équipe?
Alors déjà, on accueille les adolescents, mais pas simplement les adolescents, les parents, mais aussi les travailleurs qui travaillent auprès des adolescents. Alors, la Maison des adolescents est située en plein centre de Villefranche. Ça, c'est très important parce que les adolescents peuvent venir très facilement à la Maison des adolescents qui est 22 rue de Seigne. Et c'est très, très proche des lycées et des collèges. Alors, la Maison des adolescents est une maison, d'ailleurs. C'est pour ça que ça porte bien son nom. Elle accueille tous les adolescents, quels qu'ils soient. Des adolescents qui peuvent venir pour parler de leurs problèmes ou pas, qui peuvent venir pour chercher des conseils ou pas. Vraiment, c'est un accueil généraliste. Ce qu'on appelle un accueil généraliste, c'est que tous les adolescents peuvent venir et rencontrer des professionnels qui sont des pluridisciplinaires. Ce sont des professionnels, des psychologues, des éducateurs, des infirmiers du secteur psy, des infirmiers généralistes, des conseillers en économie sociale et familiale, des pédiatres, enfin, c'est pluridisciplinaire. Alors, comment ça se passe? L'ado qui va pousser la porte de la Maison des adolescents va se retrouver... Alors, actuellement, ça se passe comme ça, mais ça va changer. Actuellement, ça se passe comme ça. L'adolescent rentre dans la Maison des ados. Il y a une secrétaire d'accueil qui va le recevoir. Pas très longtemps, mais elle va prendre sa demande. Alors, si c'est un conseil, elle va le conseiller et l'adolescent ne reviendra pas. Si c'est une demande qui est quand même un petit peu plus précise, elle va lui donner un rendez-vous avec des professionnels. Et par la suite, il y aura donc 3 rendez-vous où des professionnels vont rencontrer le jeune. Et à la suite de ça, ils essaieront quand même de le voir un petit temps, soit ils l'orienteront. Parce que l'émission de la Maison des adolescents, c'est accueillir l'adolescent, évaluer sa demande et accompagner l'adolescent. Voilà. Alors si l'accompagner et l'orienter. Alors, il y a beaucoup d'adolescents qui viennent à la Maison des ados et qui n'ont pas besoin d'une grande prise en charge. D'autres, si la prise en charge est beaucoup plus importante, beaucoup plus
lourde.
Voilà, beaucoup plus lourde. Il y aura une orientation plus vers le centre médico-psychologique ou vers des consultations privées. Voilà, ça dépend.
D'accord. Alors, on sait justement que les changements physiques dans le corps dus au développement intense des hormones influent directement sur le moral des adolescents. Mais est-ce que c'est uniquement cette transition, ce changement physique qui rend ces grands enfants, j'allais dire, irritables, en proie à un certain vague à l'âme? Ou est-ce que, il y a autre chose? En fait, finalement, quels sont les motifs principaux que vous voyez?
Moi, je dirais que c'est très difficile de définir l'adolescence, parce que c'est vraiment un processus de maturation et d'individuation. Et qui, ce processus, il est soit biologique, soit sociologique, soit physique. C'est tout un tas de bouleversements dans la vie d'un jeune. Et je dirais quand même que
les motifs principaux de la venue,
c'est que quand même l'adolescent n'a pas de prise sur son corps qui change, et ce corps qui change, ça s'impose à lui, en fait, ça s'impose à lui, et ça va induire de l'angoisse, parce qu'il maîtrise pas toujours ce corps qui devient le siège de sensations diverses, nouvelles, avec beaucoup d'excitation génitale, et qu'il faudra apprivoiser. Et ça, c'est pas toujours facile pour l'adolescent.
Et alors, au-delà de ça, les sujets de préoccupation, de mal-être, voire de conflit qu'un adolescent peut rencontrer, alors est-ce que c'est, on va dire statistiquement, parmi les jeunes que vous voyez passer à la maison des adolescents, est-ce que c'est essentiellement des soucis d'ordre scolaire, échec scolaire, peut-être inquiétude face à son orientation ou son avenir professionnel? Est-ce que c'est un peu plus les premiers émois, ou bien la relation vraiment conflictuelle avec les parents? Qu'est-ce qui ressort le plus?
C'est tout ça, en fait. C'est tout ça. C'est que, alors, une des premières, moi je mettrais en premier, c'est le regard de l'autre, le regard de ses pairs. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ce regard, alors, ça peut avoir un effet différent. Alors, vous avez l'adolescent qui est introverti, qui ne veut surtout pas qu'on le voit. Et puis, vous avez l'adolescent qui est extraverti et qui fera tout pour qu'on le voit.
Pour être un peu plus populaire.
Mais on est dans les deux sens. C'est quand même le rapport à l'autre qui est quand même très important chez l'adolescent. Alors, après, effectivement, les préoccupations des adolescents, on est aussi, enfin, nous, ce qu'on reçoit le plus, c'est effectivement les échecs scolaires. La relation aux parents, bien sûr, ça va de soi, mais c'est pas, enfin, très souvent, les adolescents viennent accompagnés de leurs parents. Très souvent.
Lors de la première, consultation, enfin la première visite,
En tout cas, très facilement, les adolescents sont accompagnés de leurs parents.
D'accord, donc ça permet vraiment d'accueillir la difficulté du jeune, et puis de venir en appui auprès des parents.
Absolument, absolument. Alors, au premier entretien, généralement, quand ça se passe comme ça, on reçoit les parents et l'adolescent. Et puis, par la suite, l'adolescent est vu tout seul et un bilan sera fait avec les parents.
Et alors, qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux parents face au désarroi qu'ils peuvent rencontrer? Parce qu'il y a forcément des moments où il y a un souci de communication, où effectivement les jeunes et puis leurs parents viennent peut-être trouver une tierce personne pour mieux communiquer. Mais voilà, comment doivent être les parents chez eux?
Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas qu'on ait peur du conflit, il ne faut pas qu'ils aient peur du conflit. Parce qu'un adolescent qui dit quelque chose, c'est beaucoup moins inquiétant qu'un adolescent qui ne dira rien. Il faut aussi que le parent puisse résister. Souvent, on entend toujours « résiste », la chanson, là, vous savez, « résiste »,
«
de France Gall ». Résister, mais sans être dans la rétorsion. Avoir aussi de l'humour, sans être dans la moquerie.
Ça peut désamorcer un conflit.
Absolument. Et puis, ne pas avoir peur du conflit. Et puis, je pense que le parent, il faut que son image narcissique, il la mette un peu de côté, et puis qu'il puisse accepter d'être critiqué, d'être...
De vouloir avoir le dernier mot.
Absolument, et ne pas avoir peur du conflit, parce que c'est vraiment une étape, c'est un passage. L'ado a besoin en même temps de s'individuer, et en même temps, il a encore bien besoin de ses parents. Comme par exemple, un jeune qui a envie de sortir, il va vouloir sortir, mais en même temps, il dira à ses parents, bah, « tu veux pas m'amener ?» Qu'on puisse avoir deux, vous voyez, ils sont en même temps, et en même temps très dépendants d'eux.
C'est exactement la question que j'allais vous poser suite à cela. C'est, je pense que si on doit résumer cette relation parent-ado, ce serait de garder un cadre, un regard sur les actes de son enfant et en même temps le laisser prendre des décisions, lui apporter des conseils sans forcément le punir, le mettre face à ses responsabilités. Mmh. Vous êtes donc d'accord avec ça ?
Absolument. Et puis aussi, le parent, alors ça c'est peut-être un peu utopique, mais quand même, je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête, c'est que le parent, il faut qu'il puisse amener son enfant sur les chemins de la vie, tout en le laissant, cheminer, mais en lui laissant voir que dans la vie, il y a quand même aussi des règles, il y a des interdits,
Il faut donner un cadre.
Tout en le laissant faire ses expériences, exactement.
Et alors, est-ce qu'il y a une personne dans l'entourage qui peut aider les parents, justement, quand il y a conflit ? Vers qui est-ce qu'on peut laisser son enfant se tourner ?
Alors, moi, je dirais...
Une grand-mère
Alors ça, c'est quand... Oui, tout à fait. Mais quand on est dans des conflits, et c'est très souvent le cas, c'est qu'on parle... Enfin, quand on parle d'adolescence, on parle toujours de crise d'adolescence. On voit toujours ça comme quelque chose de très, très difficile. Alors qu'il y a beaucoup d'adolescents qui traversent cette crise, qui effectivement se manifestent. Mais alors là, quand on est dans des manifestations comme ça, effectivement, une grand-mère, une tante, une marraine pourront tout à fait être
relayer
les parents. En revanche, quand on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus conflictuel, il faut... peut-être une tierce personne, vraiment une tierce personne, mais qui soit vraiment en dehors du cercle familial. Et là, ben, il y a la maison des ados, il y a les psychologues, il y a les CMP, il y a des tas de...
Les infirmières scolaires aussi.
Les infirmières scolaires. Il y a le centre de... Maintenant, il y a des psychologues scolaires dans les centres d'information et d'orientation. Il y a, il y a des assistantes sociales. Enfin, on peut se tourner vers les médecins de famille aussi.
Tout à fait.
Ça, c'est très important. On a beaucoup, beaucoup, nous, de jeunes qui viennent conseillés par les médecins de famille.
Alors, vous êtes à la tête de la maison des adolescents depuis 2 ans.
Oui.
Mais bon, vous avez travaillé, on l'a dit, en milieu hospitalier, déjà dans un service pédopsychiatrie. Donc, vous avez vu beaucoup de jeunes traverser les couloirs.
Oui.
Une relation très conflictuelle avec les parents, est-ce qu'elle peut, d'après votre expérience, est-ce qu'elle peut modifier à vie la relation entre l'adolescent devenu adulte et ses parents ? Parce que c'est souvent adulte, on s'amuse parfois à relater nos souvenirs d'ado, alors plus ou moins les bêtises ou bien les interdits qu'on aurait pu transgresser. Mais est-ce que vous pensez que il n'y a pas de fatalité, c'est réparable une relation un peu qui aurait été très dure avec ses parents ?
Moi, je dirais même qu'une relation conflictuelle à l'adolescence avec ses parents va au contraire aider le jeune adulte à être autrement avec ses parents. Après, effectivement, si on est dans quelque chose, enfin, si le conflit perdure, c'est que là, c'est pas au niveau de la crise d'adolescence, mais c'est ce qui s'est passé aussi bien avant, c'est-à-dire dans l'enfance, dans la petite enfance. Généralement, quand il y a des conflits comme ça qui sont vraiment très très,
très
profonds, c'est que ça vient de beaucoup beaucoup plus loin que
ça. Une blessure plus ancienne.
Bien sûr. Et généralement, quand on a affaire à des adolescents sains, quand même, qui ont eu une crise d'adolescence, mais des fois très forte, avec leurs parents. Généralement, au contraire, ça fait des jeunes adultes épanouis.
C'est plus rassurant une bonne crise d'adolescence à l'adolescence
que
un adulte qui pourrait faire sa crise d'adolescence à 30 ou 40 ans.
Ça existe aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant un jeune qui va passer son adolescence sans trop rien dire, que plutôt qu'un ado qui va se manifester, qui va aussi dire qu'il est unique. Qui va aussi montrer qu'il est unique. Et parce qu'un adolescent, en fait, quand il est comme ça dans sa crise d'adolescence, un ado vit le présent. Mais vraiment, il vit dans, il est pas dans le futur, il est vraiment dans le présent, et tout a de l'importance. Les histoires d'amour,
les relations
avec les amis, tout a de l'importance, mais parce que l'ado est vraiment dans le présent.
Et alors vous, en termes d'adolescence, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé définit l'adolescence comme une tranche d'âge qui va de 10 à 19 ans. Alors elle a considérablement avancé ces dernières années, puisqu'on était plutôt aux alentours de 11-12 ans. Et puis elle a tendance à reculer aussi, puisqu'on parle même maintenant de grands ados de 25 ans. Là, c'est plus lié à l'indépendance financière du jeune, ouais, qui souvent vit encore chez lui. Voilà, mais donc entre ces 10 et 19 ans, ou entre ces 10 et 25 ans, pour vous, vraiment la période de la plus grande importance en termes de crise, elle se situe à quel âge? Chez la fille ou chez le garçon? Parce que je crois que c'est bien différent.
Alors, chez la fille, ça viendra plus tôt. Hein, enfin, en tout cas...
Dès la puberté.
Dès la puberté, à 13 ans. Et alors moi, enfin, la crise... Enfin, je définirais plutôt l'adolescence. Chez la fille, c'est plus tôt. Parce que, bon, ben, pour moi, ça c'est quand il y a l'apparition des règles et l'apparition des, enfin, et les seins. Ça, c'est quand même quelque chose qui vraiment définit...
Les changements physiologiques.
Enfin, moi, je définirais ça comme ça, l'adolescence, dans les changements physiques. Chez la fille, ça sera les seins et les règles. Chez le garçon, un petit peu plus tard, vers 15 ans, avec la voix qui mue et les poils. C'est vraiment très, très... Et la pilosité. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et après... Bon, ça, c'est statistiquement, hein, c'est vrai, pour moi, c'est entre, 13 ans pour la fille, 14-15 chez le garçon. Et après, il y a effectivement l'adolescence dont vous parlez, là,
qui dure,
mais effectivement, là, c'est plutôt le contexte économique qui fait qu'on est dans une adolescence tardive.
Prolongée, voilà. Parce qu'on ne peut pas prendre son envol plus tôt. Donc, finalement, la crise d'adolescence des filles se situerait vraiment pendant les années collège, chez le garçon. Fin collège et
début
lycée.
Oui, moi je serais pas aussi catégorique que ça en fait. C'est vraiment très, enfin pour moi c'est très,
c'est du cas par cas. Presque.
C'est du cas par, enfin oui c'est du cas par cas. Alors bien sûr on est dans la, enfin statistiquement la crise de l'adolescence c'est entre, moi je dirais entre 13 et 16 ans. En tout cas c'est statistiquement c'est les jeunes qu'on reçoit le plus à la maison des ados, entre 13 et 16 ans. Et mais bon, moi, je pense que c'est vraiment... Ouais, je suis pas sûre du... Je suis pas sûre des statistiques, là, vraiment pas.
D'accord, mais c'était intéressant de le voir, justement, dans le cadre de la maison des adolescents, hein, puisque vous en recevez... Vous en recevez combien par jour, d'ailleurs?
Je dirais à l'année, plutôt.
À l'année.
On en reçoit 400, à peu près, un petit peu plus de 400.
Et il y a un suivi, alors vous disiez, ça dépend vraiment de la raison pour laquelle le jeune s'est rendu chez vous. Mm-hmm. Vous parliez de suivi ou...
Alors, le suivi...
Dans certains cas, de réorienter vers quelqu'un.
Oui, voilà. Alors, le suivi, à la maison des adolescents, il faut qu'il soit court, c'est-à-dire entre 6 et 8 mois. Ça, c'est vraiment un des objectifs.
Vous fixez des rendez-vous à l'avance ?
On fixe des rendez-vous à l'avance, mais l'objectif quand même, c'est que ça puisse pas, c'est pas comme un CMP, un centre médico-psychologique où on a une prise en charge longue, thérapeutique et tout ça. Nous, l'objectif, c'est quand même de pouvoir évaluer rapidement la détresse du jeune, lui proposer des rendez-vous, mais de faire en sorte que ça ne dure pas.
Est-ce que vous rédigez une sorte de rapport, finalement, de l'évolution du jeune, hein, quand il y a un vrai suivi, qui peut l'aider après, j'allais dire, dans sa scolarité, voire dans son orientation, alors d'un point de vue vraiment professionnel, ou un rapport qui peut l'aider dans sa vie personnelle avec sa famille?
Les deux.
D'accord.
Les deux.
C'est quelque chose que vous faites comme un thérapeute ou comme un médecin qui...
Alors non, pas du tout. Nous, on prend juste des notes. Hein. On prend juste des... Enfin, si c'est de ça dont vous parlez, hein, on prend juste des notes. Et si l'adolescent ne veut pas que... Enfin, c'est anonyme. Hein, et ça s'inscrit dans nos statistiques. Si l'adolescent veut que l'on mette son nom dans son dossier, on mettra son nom. S'il ne veut pas, ça c'est complètement... ça aussi, c'est...
On respecte.
C'est faisable. On respecte. Alors, des rapports... Bien sûr, on fait un bilan. si c'est ça dont vous parlez.
Oui, aussi.
On fait un bilan avec
l'équipe.
L'équipe. Et puis, généralement, quand c'est très souvent aussi que les ados reviennent un an ou deux ans après. Et bien sûr, on sait quand même que cet ado est venu nous voir parce qu'on a quand même effectivement quelques indices.
Donc, au milieu du désarroi, de l'anxiété qui peut être liée à l'adolescence, hein, aussi bien chez les parents eux-mêmes, il faut quand même dire aussi, mais vous l'avez quand même souligné au début, la période de l'adolescence est aussi propice à une grande, à du potentiel.
Tout
parce qu'un ado, donc un adulte en devenir, est souvent très créatif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez des exemples de jeunes que vous connaissez, que vous avez fréquenté par la maison des adolescents, qui vraiment fait preuve d'un grand potentiel?
Alors, un grand potentiel, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas... Oui. Et puis à la maison des ados, on propose des ateliers. Et des ateliers, y en a un qui s'appelle justement l'atelier, parce qu'on ne voulait pas spécialement le définir comme un atelier peinture ou un atelier écriture, et où l'adolescent a la possibilité, en tout cas, de créer dans cet atelier. Et je peux vous dire que ce qu'il en ressort, c'est vraiment... Il y a des œuvres qui sont vraiment magnifiques, d'autres qui le sont moins, bien sûr, mais en tout cas, on donne la possibilité aux adolescents de créer. Il y a aussi un autre atelier qui s'appelle un atelier écriture, et où, avec comme support, on passe un petit film, et le jeune doit écrire par rapport à ça, ce que ça lui a fait et tout ça. Et vraiment, il y a des jeunes qui ont trouvé le goût de l'écriture, qui ont trouvé le goût de dire, le goût d'imaginer, de
tenir un journal intime.
Exactement.
Voilà. Oui, donc ce sont des petites choses qu'on peut facilement proposer aux adolescents quand ils sont chez eux, de coucher sur une feuille, par le dessin ou des mots, un mal-être.
Oui. Mais quand vous parlez du carnet intime, bon, là, on pense plus à la jeune fille, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes filles ont un carnet intime, beaucoup, même des garçons, hein. Mais c'est beaucoup moins. Mais les filles écrivent beaucoup.
Beaucoup plus facilement. Et alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un livre ou un film qui, selon vous, rend un bel hommage à l'adolescence et que vous pourriez leur conseiller à ces ados, justement, et aux parents qui nous écoutent?
Alors, moi, ce sont des films que j'ai en souvenir. Hein. C'est-à-dire que moi, je...
Vous en marquez, vous, ados?
Voilà, je les ai en tête. C'est un été 42. Suzanne Cattel, c'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère est décédée et qui va avoir une relation avec son père très intime, mais pas incestuelle, hein, très très intime, et elle va se retrouver enceinte. Et cet enfant, elle va vouloir le garder, et vont commencer les difficultés entre ce père et la fille. Moi, c'est un film qui est super. Après, qu'est-ce que j'ai en tête?
Un livre.
Dans les livres, il y a L'Attrape-cœur. Ça vous parle?
Oui,
ça,
tout à fait.
L'Attrape-cœur. Après, il y a un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il faudrait que les ados puissent aussi repenser au classique, hein, c'est Le Grand Moult.
Oui, j'allais vous en parler. Effectivement, un grand classique de la littérature juvénile. Très bien, donc voilà, livre, film, parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas, Sonia, pour votre témoignage, pour votre venue. Espérons que de nombreux parents inviteront leurs enfants à venir à la maison des adolescents, qui est un véritable relais dans cette relation parent-ado. C'est une grande chance d'en avoir une à Villefranche.
Oui. Parce qu'il n'y en a pas dans tous les... Enfin, normalement, il y a une maison des adolescents par département. Et là, il y a la maison des adolescents de Lyon et il y a la maison des adolescents de Villefranche.
C'est une grande chance pour nous tous qu'à la doigt. Merci à vous encore.
Merci
Sonia
vous.
Rougerie. Parlons Psycho se termine. Et puis je vous donne rendez-vous début mars pour une nouvelle édition. D'ici là, très bonne soirée à tous.